procession de rentrée par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 9 septembre 95, troisième conférence.
Il y a deux questions. L'interrogation, comment aboutit à la compréhension d'un système? Si oui, une question brûle quand même. Quand même, mon style, comment arriver à l'amour extatique? Comment, vous savez, c'est vite dit, hein, par le don de sagesse. Don du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas y arriver autrement. C'est-à-dire, c'est pas vous qui commandez. Je connaissais quelqu'un qui avait un fauteuil qui lui permettait de faire oraison. 8e degré d'oraison. Il s'asseyait, c'était suffisant. Alors, il avait confondu l'Esprit Saint et le fauteuil. Il disait ça très sérieusement. À partir de là, je lui ai dit, je ne peux plus être votre directeur, on n'a pas besoin, vous avez un fauteuil. Vous savez, on en voit très drôle dans l'ordre faussement mystique. Il faut découvrir ce que c'est que la vraie mystique. Et le grand critère, c'est l'obéissance. C'est le grand critère. Et l'Église s'en sert, du reste, toujours. Comment dépasser l'amour sensible? Ou dois-je formuler ainsi? Comment dépasser l'amour sensible par un amour spirituel? C'est toujours un amour qui est victorieux d'un amour inférieur. On ne peut pas dépasser l'amour sensible uniquement par le devoir d'expliquer des quantités de choses. Vous voyez, un garçon est pris par un amour sensible, passionnel, extraordinaire. Il va tout prix épouser. Puis les parents sont affolés. Mais non. Ils donnent toutes les raisons. Prudentielles. Ça ne joue pas. Il n'y a qu'un amour spirituel qui pourrait mesurer un amour sensible, le canaliser. C'est comme ça, du reste, que s'acquièrent les vertus. C'est par l'amour spirituel, l'amour volontaire. Je veux aimer quelqu'un d'une manière spirituelle. Je peux arriver à discerner ce que c'est que la différence entre l'amour, la volonté, un appétit sensible, un appétit spirituel, un appétit sensible. Mais ça met du temps. On met du temps avant de faire ce discernement. Quand on est passionné et qu'on n'est pas vertueux du tout, on n'arrive pas. Si on tend quand même vers l'acquisition des vertus, on peut arriver. Ça, c'est le premier discernement, vous voyez, c'est l'intelligence et l'imagination. Parce que les passions se nourrissent de l'imaginaire. L'imagination nourrit les passions. Mais ne parle pas du tout des passions. Seule l'intelligence permet l'éveil d'un appétit spirituel. Le bien de la personne, c'est la personne qu'on aime. Dans sa totalité, donc, sa sensibilité aussi. Mais on aime la personne, la sensibilité est dépassée. Alors, qu'est-ce que l'amour extatique? Si vous n'avez pas l'expérience, c'est difficile de dire ce que c'est. Tout amour est extatique, fait sortir de soi pour aller vers la personne qu'on aime. Donc, tout amour est extatique. L'amour véritable, spirituel, l'amour passionnel n'est pas extatique. Vous accaparez. Oui, les psychologues font la distinction entre l'amour oblatif et l'amour captatif. C'est très bien. On arrive, on prend pour soi. Vous avez un amour captatif pour le chocolat. Pas extatique. Un amour captatif. C'est bon à manger. l'ablatif, c'est l'amour extatique. On va vers la personne. On s'oublie, on se dépasse, on va vers l'autre. En quoi l'amour extatique dépasse l'amour sensible? Par le fait même que on se dépasse soi-même. Et dans l'autre côté, on accapare. Oui, réfléchissez sur cette expression psychologique qui dit bien ce que c'est. Oblatif. En réalité, ce n'est pas l'amour qui est oblatif. L'amour nous rend dans l'attitude oblative de dépassement. La charité est-elle un don? Oui. Dieu peut-il nous donner l'amour pour lui et le prochain? Oui. Ou dois-je compter sur mon désir et ma volonté uniquement? Non, c'est Dieu. La charité, c'est Dieu qui me la donne, mais Dieu veut que je coopère. Dieu veut que je lutte pour que cet amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain soient complètement désintéressés. L'antienne de cette semaine-ci, hein, qui est chantée, qui est si belle, hein, parce que c'est l'écriture du reste, d'inviter le pauvre, l'estropié, parce que celui-là, il nous donne la joie de rien nous rendre. Tandis que quand on invite le maire du village, c'est pour qui? C'est pour qu'il vous invite après. Donnant, donnant, c'est pas l'amour, ça. C'est utilitaire. Pourquoi est-ce un tort d'avoir peur de l'expérience externe? Oui, l'expérience externe me met en contact avec une réalité autre que moi, existante. Ce n'est que par les sens externes que je peux avoir un contact direct, intellectuel, et affirmer ceci est. Progressivement, j'espère, parce que ça reviendra souvent, l'importance du jugement d'existence, qui, de fait, dans la scolastique décadente, avait complètement disparu. On commençait par les définitions. Or, la définition est loin d'exister. Elle est loin du réel. Une définition, c'est universel, justement. Elle est le fruit d'une abstraction. Oui, je ne réponds pas plus, parce que je voudrais avec vous avancer un tout petit peu. Donc, je vous ai rappelé ce matin, et ça c'est très important, l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Je dis, la confusion entre ces deux ordres a fait la victoire du néoplatonisme et de l'ontologisme. Donc, le grand déraillement. Vous verrez ça progressivement. Bon. Alors maintenant, on va essayer de prendre l'ordre génétique. Quelle est l'expérience, pour moi, la plus radicale, celle que personne ne peut nier? C'est celle du travail. Je crois que personne ne peut nier l'expérience du travail. Saint-Pierre doit avoir un ordinateur extrêmement perfectionné pour voir les heures de travail de chacun des élus. Quand on arrive à mon âge, je n'ai pas additionné les heures de travail. Ça doit se chiffrer pas mal. Parce que la vie religieuse, contrairement à ce qu'on pense, nous permet de travailler bien plus que des quantités de gens du monde. Ça, c'est sûr. La vie religieuse est faite pour qu'on ne perde pas de temps. Pour qu'on ne soit pas dans le point de vue, vous voyez, de quelqu'un qui puisque le grand jeûne commence le 15 septembre, le grand jeûne monastique, 15 septembre jusqu'au Pâques. Alors il disait toujours ceci, et c'est assez juste, prenez seulement la nourriture qui vous permet de faire votre devoir d'État. Un étudiant novice, un étudiant prendrait rien du tout le matin, parasèse, et ne pourrait plus travailler intellectuellement durant la matinée. Je dirais, il fait une erreur. Il y a une hiérarchie dans les devoirs. Mais un professeur qui enseigne, ben oui, quand on a une grande habitude, ça va. On peut arriver à faire un cours même quand on a mal à la tête, mais pas quand on est jeune, c'est impossible. Quand on a une grande habitude, l'habitude c'est fort, il arrive à dépasser. Donc même si on a un ventre affamé, on arrive à faire un cours. Mais il n'a pas la même force que quand normalement. Et au fond, le jeûne, le grand jeûne du 15 septembre à Pâques, doit être mesuré par le devoir d'État qu'on doit faire. Alors évidemment, il faut se connaître, la dimension de son estomac, et savoir que à partir de telle heure, c'est difficile de continuer de travailler. Bon. La grande expérience pour nous, c'est le travail. Et c'est pour cela que la première philosophie, selon l'ordre génétique, c'est la philosophie du travail. C'est très curieux de voir que la philosophie grecque a commencé par Hésiode, les travaux et les jours. C'est un bon laboureur, fermier, qui réfléchit. De fait, un bon grec qui réfléchit sur qu'est-ce que c'est que le travail de celui qui est rural, de celui qui est laboureur, qui dépend tellement du temps. Et dans cette philosophie, il y a une première philosophie de la famille. Il donne des conseils. Quand tu veux te marier, je retiens cette phrase parce qu'elle est particulièrement significative. Quand tu veux te marier, pour montrer le niveau de cette philosophie, de cette éthique du travail, quand tu veux travailler, quand tu veux te marier, et demeure. Et surtout, choisis bien ta fiancée, que ce ne soit pas le frelon dans la ruche. Parce que si c'est le frelon dans la ruche, tout ce que tu gagneras sera perdu par elle. Oui, on voit très bien ça. Cette espèce de paysan qui réfléchit sur sa vie et les difficultés qu'il y a. C'est quand même, aujourd'hui on considère que c'est le premier moment de la philosophie grecque. Parce que Hésiode invoque les filles du soleil pour découvrir la vérité et dire la vérité. Alors c'est curieux, c'est très très étonnant que Hésiode, premier philosophe grec, prend le premier selon l'ordre génétique, le travail, le premier selon l'ordre de perfection, l'Olympe, les dieux, la théogonie, c'est le premier livre de théologie, la théogonie. Vous voyez, donc la genèse des dieux, traduisez hein, théogonie, la genèse des dieux. Et au fond, un traité de la très sainte Trinité montre la genèse le travail est-il plus qualitatif? Vous n'allez pas prendre comme exemple de travail celui qui est le porteur qui ramasse ses valises et qui les porte. C'est un travail, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça l'exemple type du travail. Le travail de celui qui est en usine, ce n'est pas l'exemple type du travail. Quel est l'exemple type du travail? C'est l'artisan. Ah, je crois que c'est vraiment l'artisan. Quand vous voyez de vrais artisans, ils aiment leur métier. Ils le font le mieux possible, qualitativement. Et l'artisan est déjà un artiste. Il peut l'être. Parce qu'il aime son travail, il aime l'œuvre qu'il fait. De sorte que la philosophie du travail devient nécessairement la philosophie de l'activité artistique. Parce que c'est là où le travail est qualitativement le plus parfait. Et la philosophie de l'activité artistique, c'est la philosophie de l'activité de l'artisan. On a tous vu ça, moi je l'ai vu une fois, ça m'a beaucoup frappé. J'étais jeune, mais ça m'a frappé beaucoup. Il y avait encore des artisans pour ferrer les chevaux. Puis il y avait des gens qui passaient, ils faisaient ça, la porte était grande ouverte quand on passait. Il y avait des jeunes qui venaient de la ville en vacances, qui s'arrêtaient, qui regardaient. Puis ils se mettaient à discuter entre eux et à critiquer. Alors vous auriez vu cet artisan, fier de son travail, se retourner vers eux et puis leur présenter son marteau. Hein? Fais ce travail, après tu pourras te critiquer. Autrement, va-t'en. C'était d'une justesse. On a le droit de critiquer le travail de quelqu'un si on le fait mieux, qualitativement et plus rapide. La rapidité est une qualité du travail, parce que c'est dans l'ordre de l'efficacité. C'est sûr. C'est comme les critiques d'art. Au fond, on a le droit de critiquer une œuvre d'art si on est capable de faire beaucoup mieux. Autrement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Puisque le point de vue de l'art aboutit à l'œuvre, c'est l'œuvre. S'il fait quelque chose de beau, de digne, qui est quelque chose de grand, il est incritiquable. Mais c'est là le défaut des esthétiques qui viennent des idéologies et qui alors conduisent à la critique. C'est pour ça que c'est si important aujourd'hui de comprendre que toute la philosophie repose fondamentalement sur une philosophie du travail, de l'activité artistique. Et dites-vous bien qu'en scolastique, thomiste, on n'en a jamais fait la question du travail, la question de l'art, restée absolument en dehors d'une réflexion philosophique. Alors que je crois qu'aujourd'hui, plus jamais, c'est très important de faire la critique de la praxis de Marx et d'essayer de comprendre. Comment voulez-vous faire une théologie de la liturgie si vous n'avez pas une philosophie de l'art? Parce que la théologie de la liturgie implique un art au service foi au service de la vertu de religion. Et il faut donc connaître ce que c'est représenté. Je suis arrivé à Fribourg, il n'y avait pas de cours sur l'activité artistique, il n'y avait pas de cours sur le travail. Il y avait un cours d'esthétique. Or, l'esthétique est née dans une perspective idéaliste, d'idéologie. Je crois bien que son, je crois réfléchir sur l'Église. On voit très bien. Alors, voyez, premier élément philosophique. Étudier ce qu'est le travail humain. On a une encyclique, la seule, et a fallu attendre notre pape pour avoir une encyclique sur le travail. Et comme, de fait, une philosophie réaliste n'a pas produit une philosophie sur le travail, il y a eu la praxis. Une idéologie athée sur le travail. La praxis. De Marx. C'est très étonnant de voir ça. Et là, les philosophes sont coupables. S'ils avaient réfléchi sur le travail, qu'est-ce que c'est que vrai ? Sûrement que le marxisme n'aurait pas eu cette puissance. Vous savez bien ce que disait Marx. Jusqu'ici, les philosophes ont pensé, mais ils n'ont rien transformé de l'univers. Et bien maintenant, nous allons transformer l'univers. Et notre idéologie, c'est pour transformer l'univers. La marxisme. Donc là, il condamnait cette philosophie bourgeoise qui n'allait pas jusqu'au concret. Et ne modifiez pas l'homme. Une philosophie réaliste aujourd'hui, c'est pas à cause de Marx que je dis ça. Mais si je repense ce que doit être une philosophie, étudier l'homme dans toutes ses dimensions, à partir de son expérience, on doit nécessairement regarder le point de vue du travail et le point de vue de l'art. Donc c'est le premier, j'allais dire, le premier chantier qu'on doit ouvrir, chacun d'entre nous. Parce que là, je vous donne tous les chantiers pour entrer en philosophie. Alors il y en a qu'on aime plus ou moins, mais le chantier sur le travail est indispensable aujourd'hui. Je dis, quand je suis arrivé à Fribourg, il n'y avait pas de cours sur la philosophie de l'activité artistique. J'ai demandé si je pouvais le faire. Ils m'ont laissé faire. C'était l'avantage, c'est qu'un cours comme ça est inter-faculté, interdisciplinaire. Ça intéressait les poètes, les littérateurs, ça intéresse tout le monde. Tout le monde travaille. C'est intéressant de voir ce qu'on peut mettre un peu plus de lumière dans quelque chose qui n'est pas toujours très lumineux. Le travail, c'est assez opaque. Tout dépend de ce que vous travaillez. Et quand vous avez travaillé le bois, quand vous travaillez la terre, c'est assez opaque. C'est pas très lumineux. Il faut que l'homme et conscience de son travail. Et l'encyclique de notre pape sur le travail est une chose que nous devons regarder. Au point de vue philosophique, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais le pape ne fait pas une œuvre philosophique dans son encyclique. Il lutte contre deux fausses conceptions du travail. Le marxisme et le libéralisme. Comme deux contraires. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on aura toujours contact avec des marxistes qui s'ignorent quelquefois, et le libéralisme. Et les impères soulignent que les deux oublient la dimension de l'homme. C'est l'homme qui travaille comme ouvrier, qui travaille comme patron, mais qui travaille. Parce que le libéralisme est né du côté des patrons. Et la praxis marxiste est né du côté de l'ouvrier. C'est toujours intéressant de voir ça, deux expériences contraires. Qui ont lutté et qui amènent des oppositions violentes. Parce que ça, je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est un des aspects extrêmement importants au point de vue apostolique. Vous accrochez les gens et n'importe quelle personne, quand vous pouvez, vers une philosophie du travail. Je me souviens, à Fribourg, c'était pour moi l'occasion de voir que les secrétaires des syndicats catholiques et protestants me demandaient de venir pendant leur temps de vacances passer avec eux un certain temps pour leur faire comprendre ce que c'est que la philosophie du travail. Et la première fois que j'étais chez eux, c'était les protestants qui étaient le plus avides. Parce qu'ils s'unissent là contre les syndicats marxistes, socialistes, et m'ont dit, nos confrères syndicalistes et secrétaires, parce que c'était les secrétaires des syndicats, nos confrères secrétaires des syndicats marxistes ou socialistes vont se former à Moscou et ils reviennent avec une philosophie de l'homme. C'est-à-dire une idéologie de l'homme. On dit philosophie parce que pour eux, ça revient nous-mêmes. Alors nous ne savons plus quoi leur répondre. Et ils ont ajouté cette remarque que j'ai trouvée très intéressante de leur part. Jusqu'ici, on nous faisait uniquement des cours d'économie. On voit que maintenant, c'est plus suffisant. Parce qu'au fond, on est en face. Vraiment, du socialisme qui s'étend et qui prend de plus en plus de place. Et nous comprenons que ça ne peut pas être chrétien. C'est quelque chose qui est né du marxisme et qui a des liens. Et que nous voulons voir comment leur répondre. Et nous en sommes incapables. Alors vous comprenez, quand il y a des demandes comme ça, on accepte de leur faire un cours de philosophie. Et en même temps, montrer au point de vue chrétien. Et c'était merveilleux, puisque c'était un contact avec les protestants, nos frères séparés, et puis les catholiques. Et quand ils ont su que je faisais des petites sessions à Paris, au patron, un jour, il y en a un qui a eu l'audace de me dire, on a vu que vous teniez ces sessions-là. Est-ce que vous avez deux langages? Celui des secrétaires syndicalistes ouvriers et celui du patron. Je dis non. Je rappelle, je leur donne la même philosophie. Parce que des deux côtés, il y a l'oubli de l'homme. Le philosophe ne peut jamais traiter un sujet sans la référence à l'homme. Le travail n'est travail que si c'est le travail de l'homme. Et c'est ça qui est intéressant, de montrer que le travail n'est travail. Quand vous dites que le bœuf travaille, Hésiode, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le bœuf travaille vraiment? Est-ce que l'âne travaille? C'est métaphorique, c'est pas propre. Travaille parce que l'homme le fait travailler comme un bon instrument. Il se sert du bœuf comme un instrument. Il sert de l'âne comme un instrument. Et on remplace le bœuf et l'âne aujourd'hui par des moteurs. Et l'homme prend une autre formule pour surveiller. Surveiller, c'est un travail. Très bien, surveiller des gosses qui sont à l'école, c'est un travail. Et surveiller la machine, c'est un travail différent. Alors, on va jusqu'où va le travail, vous voyez. Donc, il y en a un très très grand problème, extrêmement important, pour nous, c'est très très important de comprendre que notre philosophie réaliste réclame une philosophie du travail. Donc une philosophie de l'activité artistique ou artisanale et radicalement une philosophie du travail. L'autre aspect, ça c'est la première dimension de l'homme. Et on voit très bien quand l'homme est mis à la retraite, s'il est intelligent, il continue de travailler. Et quelquefois beaucoup plus qu'avant. Il fait beaucoup plus de choses. Ce sont leurs secours. S'il n'est pas intelligent, il ne travaille plus. Et il meurt. Beaucoup plus vite. Et le travail, c'est ce qu'on devrait dire et proclamer. Le travail vous permet de vieillir tout en travaillant. C'est-à-dire de garder une certaine souplesse, puisque le problème de la vie, c'est la souplesse. Et le travail permet de garder cette souplesse. Un travail intellectuel permet de garder la souplesse. Un travail manuel permet de garder la souplesse du corps. Et ainsi de suite, vous voyez, tout d'un coup, du travail. Deuxième grande dimension de l'homme, l'éthique. L'éthique. Au fond, on peut dire que c'est les deux grandes dimensions fondamentales. Philosophie du travail, philosophie de l'activité morale. Or, vous savez, si de fait, les philosophes ont été très paresseux pour faire une philosophie du travail. Les philosophes ont toujours fait une philosophie éthique, pratiquement. Il faudrait relever les quatre ou cinq modalités de la philosophie éthique en Grèce. Socrate, puisqu'il est à l'ordre du jour, c'est le grand-père de l'éthique. Socrate, connais-toi toi-même et les dieux. D'où est née une politique platonicienne incluant une éthique. Mais Platon commence par la politique. La République, le gros livre de la République, gros dialogue, qui est dialogue de la justice. Il faut avoir lu une fois dans sa vie la République de Platon. Pas la première année, hein. Je crois pas. Mais après, peut-être quand on est en théologie. Parce que c'est un traité de l'Église extraordinaire. Vous comprenez, hein ? Je dis ça avec humour. C'est un traité anti de l'Église. Et beaucoup prennent ça comme traité de l'Église. Parce que la seule philosophie qu'ils ont, c'est Platon. Mais c'est un très beau traité. C'est le sommet du platonisme, je crois. C'est la gloire de Platon. À l'éthique familiale. l'éthique familiale conduit à l'éthique politique. Mais l'éthique politique n'est pas première. Donc là, il y a des points de vue extrêmement intéressants à voir, toute l'histoire de la naissance de l'éthique. C'est Aristote le premier qui nous donne une éthique personnelle. Et cette éthique personnelle recherche quel est le bonheur de l'homme. C'est à partir du bonheur de l'homme qu'Aristote va essayer de préciser ce qu'est l'activité morale. Ce qu'on recherche aujourd'hui. Et de l'éthique personnelle naît l'éthique politique. Aristote a écrit aussi une politique où il critique Platon en disant que Platon sur l'unité et non pas sur la finalité, le bonheur. Ce que Platon cherche avant tout, c'est l'unité politique. Un seul parti. On connaît ceux qui font ça. Un seul parti. Très intéressant, c'est de voir que dans l'éthique politique de Platon, la paideia, l'éducation, joue un rôle capital. C'est l'État qui forme ses citoyens. C'est l'État qui est la mesure du point de vue moral. Une loi, du fait même qu'elle est légale et morale. On voit ça à Sparte. Et on voit ça aussi à Athènes. Et en philosophie grecque, ce qui est très important à voir, c'est ces diverses formes d'éthique. Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens. Vous avez cinq modalités éthiques. Voyez ce qu'il vous montre, combien la philosophie éthique est difficile à saisir. Je sais bien que la philosophie du travail est aussi difficile, mais c'est moins complexe. L'acte humain est très complexe. Pour Aristote, l'éthique personnelle, c'est la recherche de la finalité humaine. Aujourd'hui, vous savez bien, l'éthique est battue en brèche. La philosophie de l'activité artistique, elle n'est pas unifiée, c'est bien évident. Du reste, on ne lui demande pas d'être unifiée. Parce que l'activité picturale, l'activité musicale, du sculpteur, chaque fois c'est différent. C'est le propre de l'art. Il n'y a pas de connexion dans les arts. Et donc, il faudrait une philosophie de la sculpture, une philosophie de la peinture, une philosophie de la musique. C'est vrai, si on allait jusqu'au bout. Mais... Et si on pourrait faire ça, et ce serait très intéressant, à partir d'un tronc commun, voir toutes ces philosophies diverses. Et si on est dans une philosophie réaliste, je vous affirme que c'est impressionnant de voir combien beaucoup de personnes lisent une philosophie de l'activité artistique en disant « Tiens, ça m'a éclairé, j'avais jamais compris ça. » Mais c'est pas le propre de l'artiste de comprendre son activité, c'est le philosophe qui doit l'éclairer. Le philosophe n'est pas une critique d'art, mais le philosophe fait comprendre à l'artiste sa place dans le développement de l'homme. C'est très différent. chercher ça. Parce que l'influence stoïcienne a été extrêmement forte dans le christianisme. Et elle demeure. Et pour les stoïciens, la morale se fonde sur la nature humaine. La nature humaine devient le point de départ et le terme. Ça, c'est net. Pour les stoïciens. Et vous voyez, je n'ai pas une expérience immédiate de la nature. C'est là où on voit que c'est une éthique dogmatique. C'est ce qu'on a dit du reste. Tout stoïcisme est une éthique dogmatique. Et l'influence stoïcienne reprend toujours dans les moments difficiles où on a l'impression que la morale disparaît. Alors, il y a toujours certains qui veulent reprendre une morale stricte du devoir, s'appuyant sur la nature humaine et la conception qu'on a sur la nature humaine, et qui s'impose d'une manière rigoureuse. Vous avez des exemples, je ne cite pas parce qu'on prendrait des noms politiques, alors tout de suite les gens voient rouge. Alors, je veux pas. Mais on voit des exemples très nets, c'est sûr. C'est intéressant, tu vas savoir ça. Parce que ça veut dire que dans le cœur de l'homme, il y a quand même un certain sens moral qui demeure à travers tout. Et qui se durcit très vite. Je crois, et ça reste une recherche, je crois que c'est l'amour d'amitié qui est l'expérience humaine qui permet d'élaborer une véritable éthique dans notre monde d'aujourd'hui. Faisons attention, il y aura toujours pour l'éthique un double regard. Le regard de formation, la païdéia, éduquer les gens, et le regard selon l'ordre de perfection, dans la lumière de Dieu. L'âme étant créée par Dieu, il y a une éthique religieuse qui fait que l'adoration avec la vertu de religion va structurer cette éthique religieuse. Je crois qu'aujourd'hui, le philosophe qui veut être réaliste doit comprendre qu'il y a l'éthique fondamentalement humaine, l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne. Personnellement, j'en suis convaincu. Alors on verra ça, de sorte que je ne développe pas, il y aura toujours un cours sur l'éthique, parce que c'est très important. Et le troisième aspect, c'est l'éthique de la communauté, la coopération, l'expérience de la coopération, d'où naît le bien commun. Et à partir de là, on peut élaborer une philosophie politique. On a donc, et réfléchissez bien, on a donc ce triant de base. Donc, philosophie du travail, en gros. Philosophie de l'acte moral, philosophie de la communauté. Et ceci, c'est le triangle de base de toute philosophie réaliste. Et à partir de de là, et nous verrons ça demain, va s'élever ce qu'on appelle une philosophie dite spéculative. Cette philosophie, Aristote l'appelle philosophie humaine, philosophie pratique.